Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1968, Moussa Abadi enregistra deux entretiens avec le grand comédien François Perrier. Dans le premier de ces entretiens, François Perrier évoquait sa vie et sa carrière, le plaisir qu'il avait, enfant, à raconter des mensonges et donc à fabuler. Puis le cours Simon et le conservatoire, ses films, ses rôles au théâtre et sa rencontre en 1948 avec Jean-Paul Sartre, pour lequel il crée les Mains sales. Il y interprète le personnage d'Hugo dans une mise en scène de Pierre Valde et Jean Cocteau. François Perrier mettra d'ailleurs lui-même en scène les Mains sales en 1978. Dans le second entretien avec Moussa Abadi, François Perrier raconte comment George Wilson, qui avait succédé à Jean Villard au Théâtre National Populaire, lui offrit le rôle de Goetz, donc le rôle principal de la pièce « Le diable et le bon Dieu », une des pièces les plus noires du théâtre français de cette époque. François Perrier la joua au TNP en 1968. Le succès fut immense. Cette pièce que Sartre avait publiée en 1951 fut reprise ensuite, toujours avec François Perrier et toujours dans la mise en scène de George Wilson, à Avignon en 1970.
L'Office de radiodiffusion télévision française présente Images et visages du théâtre d'aujourd'hui. Une émission de Moussa Abadi. Entretien avec François Perrier. Après avoir évoqué au cours de son premier entretien ses débuts au théâtre et les principales étapes de sa carrière de comédien, François Perrier analyse et commente aujourd'hui pour vous « Le diable et le bon Dieu », la pièce maîtresse de Jean-Paul Sartre que le Théâtre National Populaire présente dans une nouvelle mise en scène de George Wilson et dont il est le principal interprète. Sept ans après sa création au Théâtre Antoine, dans la mise en scène de Louis Jouvet et avec Pierre Brasseur dans le rôle de Goetz, Le Diable et le Bon Dieu revient donc à l'affiche et remporte cette fois un énorme succès. Avec le temps, écrit Jean-Jacques Gauthier, cette pièce a acquis un accent plus dur, dans le meilleur sens du mot. Maintes circonstances font qu'elle nous touche davantage. En cours de route, nous avons nous aussi appris la valeur des vérités qu'elle contient, et nous demeurons étonnés de les entendre formuler avec une vigueur si tranquille. Les aveux que recèle l'ouvrage, les reflets qu'il nous offre de la personnalité de son auteur, l'humanité du débat entre le diable et Dieu, le ciel et la terre, l'aspiration au bien et l'incapacité de l'accomplir, la déficience des moyens, le désespoir et le déchirement, l'espoir en l'homme et l'horreur d'être un homme, cette sincérité, cette humanité, nous émeuvent aujourd'hui plus qu'autrefois. Ajoutons que la réussite de cette grande et belle reprise est due aussi, pour une bonne part, à la mise en scène, austère et rigoureuse, de George Wilson, et à la qualité exceptionnelle de la distribution qui comprend, outre François Perrier, Judith Magre, Alain Motet, Georges Riquier, Francine Rassette et George Wilson lui-même. Mais, et c'est la question que nous posons à François Perrier, quel est donc l'argument de cette pièce que l'on considère, à tort ou à raison, comme le chef-d'œuvre de Jean-Paul Sartre ?
Il faut, je crois, si on veut donner aux auditeurs une idée approximative de la pièce, d'abord la situer dans son cadre. C'est l'Allemagne du début du XVIe siècle.
De la Renaissance.
L'époque de la révolte des paysans qui devait amener à l'aventure luthérienne.
Elle se situe aux environs de Worms.
Aux environs de Worms, oui. Je crois savoir pourquoi Sartre a choisi cette époque. À quelques classes de la société qu'on appartienne, à cette époque, on croyait en Dieu. L'existence de Dieu ne faisait de doute pour personne. Donc, dans le cadre de cette époque, c'est le drame d'un homme qui est épris d'absolu. C'est la recherche de l'absolu. C'est un solitaire.
Un bâtard.
Un bâtard, comme presque toujours chez Sartre. Et, en fait, il ne juge qu'un interlocuteur valable, Dieu. Les hommes, pour lui, sont quantité négligeable. Et pour atteindre à ce contact avec Dieu, il a choisi le mal. Ce qui est le contraire du chemin habituel, mais c'est justement son originalité, et c'est parce qu'il ne voulait pas être comme les autres qu'il a choisi de rencontrer Dieu par le mal.
Oui, il faut dire que c'est un capitaine aussi.
Oui, c'est un remarquable capitaine,
stratège,
dont on a besoin.
Qui assiège
dans les batailles.
La ville de Worms, qui s'est soulevée contre son seigneur, l'archevêque.
Oui, et grâce à Goetz, l'archevêque remporte tout de même la victoire. Goetz décide tout de même de brûler Worms et de massacrer les 20 000 habitants. Parce que c'est le mal, il a choisi de faire le mal. Et, apprenant les dispositions dans lesquelles il est, un prêtre, qui est le prêtre des pauvres, Henrik, vient au camp de Goetz le supplier
d'épargner
les pauvres, et Nasty également. Nasty,
un boulanger.
Boulanger, prophète, comme il y en avait beaucoup à l'époque, et ces hommes viennent donc supplier à des titres différents Goetz d'épargner la ville. Ça excite d'autant plus Goetz qui décide plus encore
de la détruire,
précisément parce que tout le monde veut qu'il l'épargne. Et au cours de cette discussion,
Nasty démontre
à Goetz l'inutilité de son geste. Et le curé Henrik s'en mêle et, poussant très loin la dialectique, finit par lui dire « Mais tu crois que tu fais le mal, tu crois que tu fais le mal. » Ça n'est pas vrai. Tout le monde fait le mal. Le bien est impossible. Et c'est la phrase clé qui provoque Goetz.
Puisque le bien est impossible, je ferai le bien.
Je ferai le bien. Et il fait semblant de s'en remettre à la décision de Dieu pour faire le bien, c'est-à-dire qu'il décide de jouer au dé, mais en fait, il triche, c'est-à-dire qu'il force la décision de Dieu, et il décide de faire le bien. Et nous le retrouverons après l'entracte, essayant de faire le bien,
oui.
Car il n'y arrive pas.
Mais cette ascension, justement, n'aboutit pas.
Il n'est pas doué, il s'y prend comme pour faire le mal, et ça n'est pas le moyen de faire le bien. En plus, son orgueil incroyable l'empêche, évidemment, d'être un saint et d'être un homme qui puisse se consacrer aux hommes et vraiment faire le bien. Par exemple, il a hérité des terres de son frère, qu'en fait il a tué au cours de la bataille. Il a hérité ces terres et il est décidé à faire le bien, il les distribue aux paysans. Et en fait, je crois que Sartre, à ce moment-là, nous démontre que son geste, si généreux, est beaucoup plus dramatique que quand il détruisait une ville, est beaucoup plus dangereux. C'est ce que la pièce nous prouvera par la suite. Dans cette quête du bien, dans cette recherche de Dieu par le bien, il rencontre une femme,
Hilda,
qui, elle, s'est consacrée aux malheureux. C'est une fille riche, mais elle a renoncé à sa fortune, à la vie avec sa famille, pour se consacrer aux malheureux. Et Goetz, s'apercevant qu'Hilda l'aime, se sert de cet amour pour arriver à être aimé des pauvres. C'est-à-dire qu'il triche une fois de plus. Il ne fait pas le bien sincèrement. Il n'y arrivera jamais. Ne le peut pas. Alors, à un moment, rejeté par tous, sauf par Hilda qu'il aime, il finit par se retirer absolument dans un désert. Et dans une misère incroyable, il décide de se détruire, car il le dit lui-même, l'homme, l'homme est fait et né pour détruire l'homme en lui-même, et dans cette solitude, dans cette retraite, et dans cette pénitence, il fait le bilan. Il se dit, voyons, j'ai cherché Dieu par le mal. Je ne l'ai pas trouvé. Dieu n'est pas intervenu, il n'a jamais fait un miracle pour m'empêcher de saccager des villes ou de faire du mal. Quand j'ai fait le bien, je n'ai pas trouvé Dieu non plus. Et brusquement, il a une révélation, Dieu n'existe pas. Et à la fin, pour aider Nasty, qui a besoin d'un chef militaire, il sera obligé de reprendre exactement sa position du début, mais on pourrait croire que la pièce finit là où elle a commencé. En fait, tout est changé. Car il sait qu'il est seul. Il sait qu'il faudra qu'il soit un chef dur et brutal pour faire triompher la cause des paysans. Il sait qu'il ne sera jamais aimé d'eux parce que c'est un solitaire et qu'il ne sera jamais aimé. Mais lui aimera les hommes sans être payé de retour. Il a découvert les hommes en cherchant Dieu.
Et le rideau tombe sur cette dernière réplique de Goethe qui s'adresse à Nasty, le chef des pauvres.
N'aie pas peur, je ne flancherai pas. Je leur ferai horreur, puisque je n'ai pas d'autre manière de les aimer. Je leur donnerai des ordres, puisque je n'ai pas d'autre manière d'obéir. Je resterai seul avec ce ciel vide au-dessus de ma tête, puisque je n'ai pas d'autre manière d'être avec tous.
En rejoignant les paysans, écrit Francis Janson, Goethe dépasse une nouvelle fois sa bâtardise originelle. Il l'avait une première fois dépassée en choisissant d'être l'exclu. Mais il décide maintenant de la vivre dans le relatif. Et son déchirement sera d'être un chef aux yeux des autres quand il ne voudrait plus être que l'un d'eux, d'être rendu prisonnier de son personnage au moment où il consent enfin à sortir de lui-même. Mais revenons à la première partie de la pièce, au moment où Goethe assiège la ville de Worms. Il dit à Catherine, sa maîtresse, qu'il veut prendre cette ville parce que c'est mal, et qu'il veut faire le mal parce que le bien est déjà fait. Nasty entre, va à lui, et le frappe sur l'oreille.
Hé, la rustre, que fais-tu ?
Je te frappe sur l'oreille.
Je l'ai senti. Qui es-tu ?
Nasty, le boulanger.
Bonne brise, par ma foi !
Tu ne m'as pas pris, je me suis livré.
Si tu veux, le résultat est le même. Dieu me comble de ses cadeaux aujourd'hui. Voilà donc, Nasty, seigneur de tous les gueux d'Allemagne. Tu es tel que je l'imaginais, décourageant comme la vertu.
Je ne suis pas vertueux. Nos fils le seront si nous versons assez de sang pour leur donner le droit de l'être.
Ah, je vois, tu es prophète.
Oui, comme tout le monde.
Vraiment ? Alors moi aussi, je suis prophète ?
Toute parole témoigne de Dieu. Toute parole dit tout sur toute chose.
Foutre, il va falloir que je surveille ce que je dis.
À quoi bon, tu ne pourras pas t'empêcher de tout dire.
Bon, eh bien toi, réponds à mes questions et tâche de ne pas dire tout à fait tout, si nous n'en finirons pas. Ainsi donc, tu es Nasty, prophète et boulanger.
Oui, je le suis.
On te disait dans Worms.
J'en suis sorti.
Cette nuit ?
Oui.
Pour me parler ?
Pour chercher des renforts et t'attaquer par derrière.
Excellente idée. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
En traversant le camp, j'ai appris qu'un traître vous avait livré la ville.
Tu as dû passer un sale quart d'heure.
Oui, très sale.
Alors ?
J'étais assis sur une pierre derrière ta tente, j'ai vu la tente s'allumer, des ombres s'agiter. À ce moment-là, j'ai reçu mandat d'aller à toi et de te parler.
Qui t'a donné ce mandat ?
Qui veux-tu que ce soit ?
En effet, qui ? Heureux homme, tu as des mandats et tu sais qui t'a mandaté, moi aussi j'en ai. Tiens, celui de brûler Worms. Mais je n'arrive pas à savoir qui me les a donnés. Est-ce Dieu qui t'a commandé de me frapper sur l'oreille ?
Oui.
Ta tête est mise à prix. Est-ce que Dieu t'en a prévenu ?
Oh, Dieu n'avait pas besoin de me prévenir, j'ai toujours su comment je finirais.
Il est vrai que tu es prophète.
Pas besoin d'être prophète. Nous autres, nous n'avons que deux manières de mourir. Ceux qui se résignent meurent de faim, ceux qui ne se résignent pas sont pendus. À 12 ans, tu sais déjà si tu te résignes ou non.
Parfait. Alors jette-toi vite à mes genoux.
Pourquoi faire ?
Pour implorer ma pitié, je suppose. Est-ce que Dieu ne te l'a pas commandé ?
Tu n'as pas de pitié. Dieu non plus. Et pourquoi t'implorerais-je, moi qui, le jour venu, n'aurais de pitié pour personne ?
Alors qu'est-ce que tu viens foutre ici ?
D'ouvrir les yeux, mon frère.
Oh ! Oh, nuit merveilleuse ! Tout bouge ! Dieu marche sur la terre ! Ma tente est un ciel rempli d'étoiles filantes, et voici la plus belle, Nasty, prophète de la boulange, qui vient m'ouvrir les yeux. Qui aurait cru que le ciel et la terre feraient tant d'embarras pour une ville de 25 000 âmes ? Au fait, boulanger, qui te prouve que tu n'es pas la victime du diable ?
Quand le soleil t'éblouit, qu'il te prouve qu'il ne fait pas nuit.
La nuit, quand tu rêves au soleil, qui te prouve qu'il fait jour. Et si j'avais vu Dieu, moi aussi, hein? Ah, ce serait soleil contre soleil. Je les ai tous dans ma main, tous. Celle-ci qui voulait m'assassiner, l'envoyé de l'archevêque et toi le roi des gueux. Son index a défait un complot et démasqué les coupables. Mieux, c'est un de ses ministres qui m'a porté de sa part les clés de la ville.
Un de ses ministres, lequel?
Que t'importe, puisque tu vas mourir, allons avouer que Dieu est avec moi.
Avec toi, non, tu n'es pas l'homme de Dieu. Tout au plus, son frelon.
Qu'en sais-tu?
Les hommes de Dieu détruisent ou construisent. Toi, tu conserves.
Moi?
Oui, tu mets du désordre. Et le désordre est le meilleur serviteur de l'ordre établi. Tu as affaibli la chevalerie tout entière en trahissant Conrad et tu affaibliras la bourgeoisie en détruisant Worms. Et à qui cela sert-il? Aux grands. Tu sers les grands, Goetz, et tu les serviras quoi que tu fasses. Toute destruction brouillonne, affaiblit les faibles, enrichit les riches, accroît la puissance des puissants.
Pour les exégètes les plus avertis et les plus lucides de l'œuvre dramatique de Jean-Paul Sartre, le diable et le bon Dieu est incontestablement, avec huis clos et les séquestrés d'Altona, l'une des pièces qui se rapproche le plus de la définition que le dramaturge lui-même a donnée du genre théâtral qu'il considère comme le seul possible à notre époque, le théâtre de situation. Ce que le théâtre peut montrer de plus émouvant, écrit-il, c'est un caractère en train de se faire, le moment du choix, de la libre décision qui engage une morale et toute une vie.
Vous pensez que cette pièce est la plus importante de oui, l'œuvre de Sartre?
Oui, je crois. Huis clos est une admirable pièce. C'est une pièce plus ronde, si
oui,
vous voulez,
sûr.
Peut-être plus parfaite. Il y a dedans beaucoup de la pensée sartrienne et des thèmes chers à Sartre. Mais je crois que la pièce où il a le plus dit, c'est Le Diable et le Bon Dieu. Et oui. où il a mis le plus de lui et de son œuvre et de sa pensée. Et de sa philosophie.
Oui, justement, je voulais vous demander à ce propos votre sentiment sur le théâtre de Sartre, parce que vous savez, on a souvent dit que le théâtre de Sartre était un théâtre d'idées, un théâtre d'intellectuels, autrement dit, un théâtre abstrait, où les personnages ne sont pas vivants, qui manquent de générosité, qui manquent de chaleur humaine. Or, nous venons... grâce à vous, grâce à la mise en scène de George Wilson, de découvrir dans cette pièce qui est Le Diable et le Bon Dieu une générosité
extraordinaire,
une humanité.
Et puis, alors quand on parle d'abstraction en parlant de Sartre, je ne connais pas un texte plus clair. Je n'ai pas eu beaucoup de mal à apprendre ce rôle qui est considérable.
Écrasant.
Il fait 1800 lignes, c'est un des plus longs du répertoire. Je crois qu'il y a guère qu'Hamlet qui est plus long. Mais je n'ai eu aucun mal à apprendre ce texte, parce que c'est tellement intelligent, ça coule de source. Ce que dit Goethe me venait, bien sûr, j'y aurais pas pensé tout seul, il fallait Sartre. Mais autrement, pour moi, c'est limpide, c'est clair, c'est percutant. Je vous assure qu'il n'y a pas un moment dans la pièce où on sente que le public se pose des questions. Et quand on pense que cette pièce a été écrite il y a 17 ans, et l'actualité...
Non seulement elle n'a pas pris une ride, mais à mon avis, elle a rajeuni.
Oui, moi j'ai même le sentiment que la pièce a une plus grande résonance cette fois-ci que la première fois. Cela tient certainement en partie à la mise en scène de Wilson.
Qui est très lisible.
Admirable.
Très claire.
Elle est d'une immense sobriété.
C'est une des mises en scène les plus honnêtes que je connaisse.
Oui, et tellement simple en elle-même et tellement belle. Et je trouve qu'elle sert la pièce admirablement.
Ce public du TMP, François Perrier, comment est-il selon vous?
Je vous avouerai que le premier jour, quand je suis entré sur scène et que j'ai senti cette masse, ces gens, j'ai toujours été traqueur, mais je n'ai jamais eu le trac comme ça. Dieu merci, ça s'est dissipé très vite. Et alors là, j'ai découvert un public très étonnant, d'une attention, d'une... C'est pas de la politesse, c'est de l'attention. Ils sont attentifs. On peut penser que, moi qui étais habitué à des salles de 700 places, me trouvant devant 4 fois plus de personnes, les petits bruits, les tous seront multipliés par 4, c'est le contraire. C'est un public, et on a dit plusieurs fois que ce
il
public
était conditionné.
Était conditionné. Et je connais le public, je le sens, ça fait 30 ans que j'exerce mon métier, j'ai joué plus de 7000 fois à la comédie, je sais ce que pense une salle, je sais ce qu'elle sent pendant que je joue. Eh bien, c'est stupide de dire que ces gens sont conditionnés, ça n'est pas vrai. Car si on leur donne un spectacle qui ne leur plaît pas au TNP, eh bien ils n'iront pas et ils manifesteront leur mécontentement.
Et ils n'applaudissent pas.
Et ils n'applaudissent pas. Ils veulent voir du théâtre, ils viennent pour voir du vrai, du beau, du grand théâtre.
En tout cas, c'est l'avis unanime de la presse, du public. C'est une très, très grande soirée et c'est une très grande interprétation. Je crois que vous êtes très, très heureux d'avoir inscrit à votre palmarès.
Honnêtement, oui. Parce que c'était une grande bataille pour moi.
Et cette bataille, François Perrier l'a gagnée avec une aisance stupéfiante. Connaissant tout le talent de ce remarquable acteur, de cet excellent interprète de comédie et de boulevard, écrivait Jean-Jacques Gauthier au lendemain de la générale de cette reprise, je me demandais, avant de l'avoir vu, ce qu'il espérait gagner, ce qu'il pouvait attendre d'une création si difficile. J'ai compris. Le diable et le bon Dieu lui a fourni l'occasion de nous démontrer qu'il est un grand, un très grand comédien, jouant ce rôle avec une simplicité, un naturel qui sont le sommet de l'art. Mais écoutons-le encore interpréter un extrait d'une autre scène qui se situe au début de la deuxième partie de la pièce, après la conversion de Goetz.
Salut, Nasty. Salut, mon frère. Je suis heureux de te revoir. Sous les murs de Worms, il y a 2 mois, tu m'as offert l'Alliance des pauvres. Eh bien, je l'accepte. Attends, c'est à moi de parler. Je vais te donner de bonnes nouvelles. Avant de faire le bien, je me suis dit qu'il fallait le connaître, et j'ai réfléchi longtemps. Eh bien, Nasty, je le connais. Le bien, c'est l'amour. Bon, mais le fait est que les hommes ne s'aiment pas. Et qu'est-ce qui les en empêche? L'inégalité des conditions, la servitude et la misère. Il faut donc les supprimer. Jusqu'ici, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Rien d'étonnant à cela. J'ai profité de tes leçons. Oui, Nasty, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Seulement toi. Tu veux remettre à plus tard le règne de Dieu. Moi, je suis plus malin. J'ai trouvé un moyen pour qu'il commence tout de suite. Au moins dans un coin de la terre. Ici. Premier temps, j'abandonne mes terres aux paysans. Deuxième temps, sur cette même terre, j'organise la première communauté chrétienne. Tous égaux. Ah, Nasty, je suis capitaine. Je livre la bataille du bien et je prétends la gagner tout de suite et sans effusion de sang. Aide-moi, veux-tu? Tu sais parler aux pauvres. À nous deux, nous reconstruirons le paradis car le Seigneur m'a choisi pour effacer notre péché originel. Tiens, j'ai trouvé un nom pour mon phalanstère. Je l'appelle la Cité du Soleil.
François Perrier joue le rôle de Goetz comme s'il plaidait pour son personnage, un être divisé, déchiré, à la recherche de lui-même. Et grâce à cet admirable interprète, écrit Bertrand Poirot-Delpech, le théâtre de Sartre devient ce qu'il est sous ses généralités éloquentes, une espèce de confidence d'homme à homme.
Je crois que vous avez toujours plaidé pour vos personnages, qu'il s'agisse de Bourgeois...
Même pour Tartuffe.
Même pour Tartuffe.
Je suis convaincu que Tartuffe est vraiment épris d'Elmire. Et d'ailleurs, Elmire ne s'y trompe pas. Car à la fin de la pièce, quand tout le monde crie à haut sur le baudet et où Tartuffe, écroulé, ne trouve que des ennemis autour de lui, il n'y a qu'Elmire qui dit « Mais on m'a mis au point de vous traiter ainsi ». Elle lui demande presque pardon. Et si elle lui demande pardon, c'est parce qu'elle a été touchée par sa passion. Et parce qu'au moment où il lui a fait cette admirable déclaration, enfin, qui est écrite en style d'église, elle a senti l'authenticité de sa passion. Moi, je suis convaincu que Tartuffe aime sincèrement Elmire. C'est-à-dire que dans le dossier Tartuffe, qui, je dois dire, est un dossier assez noir, eh bien, j'ai cherché cet angle qui permettait, non pas de le réhabiliter, mais tout de même de le défendre humainement parlant.
Et dans le dossier de Goetz, qu'est-ce que vous plaidez au fond?
L'homme. La découverte de l'homme et, en fin de compte...
Sa grandeur et sa solitude.
Sa grandeur, oui, c'est merveilleusement défini. Sa grandeur et sa solitude. Nous n'avons que notre vie, dit Goetz à la fin. Quand il s'est aperçu que Dieu n'existe pas, il dit à Nasty, nous n'avons que notre vie, je n'enverrai plus personne à la mort. Et... je dois dire que, à toutes les époques, on a besoin de prêcher l'amour des hommes et la compréhension entre les hommes. Et je crois que, plus que jamais en ce moment, où vraiment les hommes ne cessent de se déchirer, de se combattre, Je crois qu'il est pas mal d'entendre ce cri d'un isolé, comme Sartre, qui dit « les hommes pourraient s'aimer ».
Voici encore, interprété par François Perrier, une autre scène de la deuxième partie « Du diable et le bon Dieu ». Après avoir pris, sur un coup de dé et en trichant, le chemin du bien et de la vertu, Goetz a distribué aux paysans les terres héritées de son père. Mais les paysans, le peuple des pauvres, ont finalement repoussé ses aumônes et se sont révoltés contre lui. Et le voilà de nouveau seul, désespérément seul.
« Vous crèverez, chien. Je vous nuirai de façon mémorable. À moi, ma méchanceté, viens me rendre léger. C'est pour rire. Le bien m'a rincé l'âme, plus une goutte de venin. Parfait, en route pour le bien, en route pour Heilweiler. Il faut me pendre ou faire le bien. Mes enfants m'attendent, mes chapons, mes castrats, mes anges de basse-cour. Ils me feront fête. Bon Dieu qu'ils m'ennuient. Ce sont les autres que j'aime, les loups. Eh bien, Seigneur, à toi de me guider dans la nuit obscure. Puisqu'il faut persévérer malgré l'échec, que tout échec me soit un signe, tout malheur une chance, toute disgrâce une grâce. Donne-moi le bon emploi de mes infortunes, Seigneur, je le crois, je veux le croire. Tu as permis que je roule hors du monde, parce que tu me veux tout à toi. Et voilà, mon Dieu, nous sommes de nouveau face à face, comme au bon vieux temps où je faisais le mal. Ah, je n'aurais jamais dû m'occuper des hommes. Ils gênent. Ce sont des broussailles qu'il faut écarter pour parvenir à toi. Je viens à toi, Seigneur. Je viens. Je marche dans ta nuit. Donne-moi la main. Dis. La nuit, c'est toi, hein? La nuit, l'absence déchirante de tout. Car tu es celui qui est présent dans l'universelle absence, celui qu'on entend quand tout est silence, celui qu'on voit quand on ne voit plus rien. Vieille nuit, grande nuit d'avant les êtres, nuit du non-savoir, nuit de la disgrâce et du malheur, cache-moi, dévore mon corps immonde, glisse-toi entre mon âme et moi-même et ronge-moi. Je veux le dénuement, la honte et la solitude du mépris, car l'homme est fait pour détruire l'homme en lui-même et pour s'ouvrir comme une femelle au grand corps noir de la nuit. Jusqu'à ce que je goûte à tout, je n'aurai plus de goût à rien. Jusqu'à ce que je possède tout, je ne posséderai plus rien. Jusqu'à ce que je sois tout, je ne serai plus rien en rien. Je m'abaisserai au-dessous de tous. Et toi, Seigneur, tu me prendras dans les filets de ta nuit et tu m'élèveras au-dessus d'eux. Mon Dieu, est-ce ta volonté? Cette haine de l'homme, ce mépris de moi-même, ne les ai-je pas déjà cherchés quand j'étais mauvais? La solitude du bien, à quoi la reconnaîtrais-je de la solitude du mal? Le jour se lève. J'ai traversé ta nuit. Sois béni de me donner ta lumière. Je vais voir clair.
Depuis ses débuts dans les jours heureux, François Perrier s'est voué entièrement à son métier. Et aujourd'hui, au seuil de la cinquantaine, et bien qu'il compte à son actif plus de 7000 représentations, il est encore aussi enthousiaste, aussi passionnément amoureux de son art qu'au temps où son maître André Bruno guidait ses premiers pas de comédien. « Pour moi, nous dit-il, vivre, c'est jouer. » Et il ajoute
« Je ne sais absolument pas ce que j'aurais pu faire dans la vie si je n'avais pas exercé ce métier. Je vous le dis très sincèrement, si demain, pour une raison quelconque, je ne pouvais plus exercer ce métier, je serais un homme fini. Je serais perdu. C'est ma passion. Je vis pour mon métier. J'ai la chance d'être très heureux, d'avoir une femme que j'aime tendrement et qui m'aime tendrement, et d'avoir des enfants qui m'ont donné beaucoup de satisfaction. Mais c'est tout de même mon métier qui est au premier plan. Et les gens qui m'aiment, les gens qui m'entourent le savent. Aussi bien mes enfants que ma femme savent très bien qu'il faut qu'ils m'aident dans mon métier pour que je sois heureux. Je ne pourrais pas être heureux sans mon métier.
L'Office de radiodiffusion télévision française vous a présenté Images et visages du théâtre d'aujourd'hui. C'était un entretien avec François Perrier à l'occasion de la reprise au Théâtre National Populaire du Diable et le Bon Dieu de Jean-Paul Sartre. Prise de son, Pierre Simon.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 5 décembre 1968. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter à volonté sur franceculture.fr.
Devant mon miroir ovale, en poudrant mon corps, dans ma loge, tantôt bleu, tantôt rouge, je revois au fond du miroir ovale, contemplant mon corps, tantôt mauve, tantôt vert, toujours et encore. Je revois les feux qui dansent dans ses yeux, dans mes yeux. Je revois les feux changeants, reflets sur mon corps, comme les feux qui dehors dansent, tantôt rouge, tantôt bleu, lettres de néon immenses écrivant mon nom, tantôt rouge, tantôt bleu, dans le ciel profond. Tantôt rouge, tantôt bleu, écrivant mon nom. Puis ce long trait sinueux, dessinant mon corps, dans le ciel tout en or long et langoureux. Il me disait, tu es dans ma vie, un petit arc-en-ciel. Comme je te trouve jolie, toute mauve irréelle. Il me disait des mots si tendres, tantôt mauve, tantôt bleu. Des mots si doux à entendre que j'en fermais les yeux. Maintenant devant mon miroir, quand je mets du rimmel, tantôt mauve, tantôt bleu, tantôt vert, je pleure. Au fond du miroir ovale, en mettant mes bas, tantôt mauve, tantôt vert, toujours je revois. Le petit feu clignote et danse, ça y est, c'est mon tour. Sur la scène, je m'avance en fermant les yeux. Des couleurs en transparence dansent tout autour. Tantôt rouge, tantôt bleu, mauve et irréel. Tantôt mauve, tantôt vert, au cœur de la nuit. Tantôt rouge, tantôt bleu, palpitant sans fin. Et la chaleur de ses mains dans ses feux qui dansent. Tantôt rouge, tantôt bleu, ah que nous étions bien. Les yeux fermés, je me balance. Comment vivre sans lui? Comment me passer de mots tendres, des mots d'amour heureux? Ces mots, je ne cesse de les entendre. Comment vivre sans lui? Ces mots si doux à entendre, et je ferme les yeux. Et je vois les feux qui dansent, tantôt rouge, tantôt bleu. Et je vois les feux qui dansent, tantôt rouge, tantôt bleu. Tantôt rouge, tantôt bleu.